Chapitre 8. Une nuit chez les autres. Le landau allait qu'à un quart d'une ornière à l'autre, et ses lanternes montraient de nombreuses flaques d'eau. Derrière lui, la charrette, au trot des ânes, se secouait de son mieux. La nuit était si noire qu'on ne voyait pas à 50 centimètres de chaque côté de la route. Il faisait une chaleur humide, comme lorsqu'on entre dans la grande serre du jardin d'acclimatation. Cela invitait au sommeil. Les enfants dormaient presque, et les parents, Monsieur de Livry et Miss Lagie, en avaient l'air, car on ne parlait pas. Lorsque, droite, serrée, tombant comme tout d'une pièce, la pluie reprit d'une façon inquiétante. Le cocher fouetta ses chevaux afin de sortir de la forêt le plus tôt possible. Nicolas, voyant cela, piqua les ânes, qui partirent si vite que la charrette, après 2 ou 3 tours sur elle-même, se coucha sur le côté, appuyée heureusement sur un talus. Les enfants tombèrent les uns par-dessus les autres, sans se faire aucun mal, mais en poussant des cris de paon. Les 2 ânes aussi étaient sur le flanc, seulement ne disant rien. Nicolas, qui jusque-là s'était tenu assis sur le devant de la charrette, avait sauté à terre en s'écriant « Quel guignon !» Après s'être assuré que personne n'était blessé, il glissa le matelas de façon que garçons et filles puissent trouver une position dans la charrette renversée et commençait à dételer les ânes pour les remettre debout. Lorsque M. de Valry arriva, tenant, afin de s'éclairer, une des lanternes du landau, n'ayant qu'un parasol pour se garantir de la pluie. Souvent, depuis le départ du Capricorne, il avait mis la tête à la portière pour surveiller l'équipage de M. Dumont, et grande avait été son inquiétude en s'apercevant qu'il ne suivait plus le sien. « Papa, dit Blanche tout en pleurnichant, allons-nous passer la nuit ici ?»« M. de Valry, j'espère que non. Allons, Nicolas, un coup d'épaule. À nous deux, nous redresserons bien la voiture, j'espère. Elle est légère. » Lorsqu'elle fut d'aplomb, ce fut pour montrer un brancard cassé. Il pleuvait toujours. La toile à matelas servant de bâche commençait à s'imbiber, car elle n'était pas imperméable. La situation devenait très sérieuse quand M. de Livry arriva à son tour. « La voiture revient aussi, dit-il, mon ami. Nous n'en mourrons pas pour faire à pied le reste de la route. Mettons les enfants dans le landau. Nicolas se tirera d'affaire avec ses ânes. Demain, on reviendra chercher la carriole. » Maurice et Léon en sortirent les premiers et, en courant, rejoignirent la voiture de leurs parents, qu'il avait fallu arrêter à un carrefour pour pouvoir tourner. Hélène fit ensuite le trajet monté sur le dos de son père et Blanche sur celui de M. de Livry. Nicolas, la lanterne en l'air, guidait la marche. « Éclairez-moi donc ce poteau que je vois là, » dit le cocher comme il approchait, « afin que je sache si je suis bien dans le droit chemin. » La lumière montra en grosses lettres « Route de Bois Fleuri ».« Nous sommes tout près de chez Mademoiselle Percier, » dit Madame de Valry. « Il faut nous y arrêter, ne serait-ce que pour y prendre des caoutchoucs et des parapluies. D'ici là, entassons-nous tous dans le landau. Les ressorts nous supporteront bien pour un si petit trajet. » « Bien dit, chère madame, reprit M. de Livry, cela va être drôle de faire ce soir ma première visite à mes amis Percier, qui vont être bien étonnés de me voir. » Les 2 garçons se placèrent sur le siège, enveloppés dans les couvertures des chevaux, et peu de minutes après, la cloche de la grille de Bois Fleuri sonnait à toute volée, faisant tressaillir M. Percier, Mademoiselle Élisabeth, sa sœur aînée et Madame de Maumère, son autre sœur, qui faisait une partie de whist, après le coucher des enfants. « Qui peut bien venir à cette heure-ci par un temps pareil ? » s'écria-t-on en posant les cartes sur la table, sans faire attention à les tourner de façon à cacher son jeu. La surprise fut bientôt augmentée en entendant rouler une voiture qui s'arrêtait devant le perron. M. Percier se précipita hors du salon. Mademoiselle Élisabeth courant par derrière en lui criant. « Charles, ne sors pas sous la pluie, tu vas prendre froid. » La crainte de voir son frère s'enrhumer était un souci perpétuel pour cette excellente demoiselle. Mais déjà M. Percier recevait dans ses bras Maurice, puis Léon, et voyait M. de Valry sortir à grand-peine une jambe du landau, tandis que l'autre restait prise entre toutes celles des voyageurs sans pouvoir se dégager. Enfin, par un violent effort, il y parvint et gagna la véranda qui le mettait à l'abri. « Ce sont presque des naufragés qui vous arrivent, » dit-il. Et en quelques mots, il expliqua la situation, pendant que son hôte l'entraînait dans la maison. « Mademoiselle Élisabeth. » Il faut rester couché ici. » Madame de Valry, du fond de la voiture. « Non, 1000 fois merci. On serait trop inquiet à la maison. J'ai hâte d'y retourner. » Mademoiselle Élisabeth. Votre mari est trempé, chère madame, il faut au moins qu'il prenne un autre paletot. Blanche. Bonjour, mademoiselle. Comment vont Marthe et Cécile? Mademoiselle Élisabeth. Comment, chère petite, vous êtes là aussi? Je vous en prie, chère madame, descendez de voiture. On va jeter un fagot dans la grande cheminée du billard, cela vous fera du bien, car la pluie est devenue très froide. Monsieur de Livry. Cette idée me ravigote. J'en suis. Mademoiselle Élisabeth. Quel est ce son de voix? Monsieur de Livry sautant à bas de la voiture. Devinez. Mademoiselle Élisabeth lui serrant la main. C'est cet original de Livry qui sort comme d'une boîte à surprises. Voyons. Maintenant soyez bon à quelque chose, aidez ses enfants à descendre et conduisez-les dans le salon. Madame de Valry et Miss Lagie se trouvèrent bientôt aussi à monter les marches larges du perron, tandis que le cocher était conduit à la basse-cour par le domestique qui avait ouvert la grille. Le feu clair produit par les broutilles jetées à brasser dans l'antique cheminée donnait une lueur pleine de gaieté sur le large cercle qui se forma alentour. Le récit de la journée passée au Capricorne amusa beaucoup la famille Percier. Les enfants de Valry n'étaient pas contents de trouver ceux de Boisfleury couchés.
« On devrait les réveiller, » disait Hélène tout bas.
Au lieu de cela, madame de Maumer fit une proposition qui devait être acceptée. « Puisque vous voulez absolument retourner à Trouville, » dit-elle en prenant madame de Valry à part, « et que notre ami de Livry n'aime pas à découcher quand il n'a pas avec lui le nécessaire de voyage qui contient une partie de ses manies, laissez-nous vos enfants. Maurice et Léon occuperont une des chambres d'amis, Blanche prendra dans celle de Marthe le lit qu'occupe ordinairement Cécile, il est libre, parce que la petite ayant été un peu souffrante ces temps derniers, je l'ai dans ma chambre. Hélène couchera à côté de la nurserie, à la place qu'occupe ma nièce Madeleine lorsqu'elle est ici. Quelle joie demain matin, quand mes enfants trouveront les vôtres ainsi installés !» Madame de Valry vit le commencement de la fête quand elle annonça ce qui venait d'être organisé. Maurice et Léon criaient bravo. Leur sœur riait déjà en pensant à la figure que feraient leurs amis en se réveillant. « Pour que la surprise soit complète, il ne faudra pas faire de bruit en vous couchant, » dit mademoiselle Élisabeth. Les quatre grandes personnes reprenaient donc seules le chemin de la Villa des Roses, tandis que les enfants gagnaient leur couchette. Les deux frères avaient sous le bras des chemises de nuit appartenant à Pierre et à Jean. Les petites filles allaient en trouver dans le trousseau de Marthe et de Cécile. Décidément, l'une d'elles avait eu raison de dire une fois que c'était bien agréable de connaître une famille si semblable à la leur. La bonne dormait lorsque mademoiselle Élisabeth entra dans la chambre. Elle fut même obligée de la secouer pour la faire sortir de son profond sommeil. Le réveil ne se fit encore qu'à moitié, car tout en se frottant les yeux, la domestique demanda pourquoi les petites demoiselles étaient habillées à cette heure-là. « Je les ai cependant couchées, bien sûr, » disait-elle. « Certainement, » reprit mademoiselle Percier. « Aussi est-ce les petites de Valry que je vous amène. Dépêchez-vous de passer un jupon pour les aider à se déshabiller et leur donner ce qu'il leur faut. »
« Ah bah, si je m'attendais à cela, » commençait à s'écrier la bonne des enfants lorsque sa maîtresse l'interrompit.
« Chut, silence. Surtout ne dites pas un mot à Marthe de ce qui se passe ce soir quand elle se réveillera demain matin. Il faut que ce soit elle qui découvre son amie toute seule. »
Puis, ayant embrassé les petites filles, elle se retira. Hélène aurait bien voulu être à la place de Blanche. « Je ne jouirai de rien dans mon coin. Tu as de la chance, toi, » disait-elle à sa sœur. « C'est parce que tu es l'aînée qu'on t'a donné une chambre à toi toute seule. De quoi te plains-tu donc? Tu as tout l'honneur. » « Je m'en moque bien de cet honneur-là. Je te le donnerai bien pour rien. »«
Merci, je n'en veux pas. » »«
Tiens, je te paierai même pour le prendre, veux-tu? Voyons, qu'est-ce que je te donnerai bien? Ma commode de poupée? La tienne est cassée, cela ferait bien ton affaire, dis. Veux-tu? »
Non, reprenait Blanche en secouant la tête. Madame de Maumer a dit que je coucherai près de Marthe. C'est arrangé comme cela. Pourquoi veux-tu le changer?
Parce que j'aimerais mieux y être. Tu n'es pas complaisante, c'est mal à toi. Hélène, en disant ces mots, avait élevé la voix, et Marthe bougeait sous sa couverture.
Mesdemoiselles, si vous parlez comme cela, la surprise de demain va manquer.
Cet avertissement de la bonne était fort juste. Les deux sœurs finirent donc de se déshabiller en silence, et la plus grande, réfléchissant que ce n'était pas bien d'avoir voulu prendre un plaisir à Blanche, alla l'embrasser de bon cœur avant de gagner la chambrette voisine. Le lendemain matin, vers 7 heures, la bonne, déjà levée, travaillait près de la fenêtre sans faire de bruit, afin de ne pas réveiller les enfants, lorsque Marthe, toujours très matinale, ouvrit les yeux. Son lit était tout à côté de celui qu'occupait ordinairement sa sœur. Les jours précédents, le couvre-pied de cretonne à fleurs roses le recouvrait,
de sorte qu'elle fut frappée tout de suite par la blancheur des draps comme par la boursouflure qui se produisait sous la couverture.
« Cécile est donc venue coucher ici cette nuit, pensa-t-elle. C'est singulier. »
Au moment où elle allait demander une explication à la domestique, celle-ci laissa tomber ses ciseaux, ce qui réveilla Blanche tellement en sursaut que d'un seul mouvement, elle se mit sur son séant. Marthe, en la voyant, poussa un tel cri de surprise qu'Hélène, qui avait passé une nuit fort agitée et ne dormait que d'un œil, l'entendit à travers la mince cloison. Aussitôt, elle accourut en chemise de nuit. Quand la petite de Maumer se vit ainsi entourée, sa stupéfaction fut si grande qu'elle en perdit la parole.
« Eh bien oui, c'est moi, disait Hélène. As-tu donc perdu la langue ?»
Et Blanche, tout en se frottant encore les yeux, reprenait de son côté. « C'est drôle, n'est-ce pas ? Ah, nous avons eu hier des aventures comme on n'en voit que dans les livres. »
Marthe. « Il faut bien cela pour que vous ayez poussé ici pendant la nuit. »
Blanche. « Je vais vous conter cela. D'abord, Hélène l'interrompant. « Tu es comique, toi, de vouloir parler la première, comme si tu étais la plus grande. »
Blanche. « Je suis bien assez, il me semble, pour dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai vu. »
Hélène. « C'est possible, mais ce sont toujours les aînés de la famille qui doivent prendre la parole. »
Demande à Maurice ce qu'il en pense et si Léon s'avise de regimber.
Blanche. « Léon est si paresseux. »
Hélène. « Même pour remuer les lèvres ?
Ah, ce serait par trop fort. »
Marthe. « Pendant que vous vous disputez en chemise de nuit, je ne connais rien de votre histoire. Vous feriez bien mieux de m'en compter chacune la moitié. Hélène, la première partie, Blanche, la seconde. »
Hélène. « Tu as raison. Seulement, je suis pieds nus, et même sur le tapis, ce n'est pas agréable. »
Blanche. « Viens donc dans mon lit.
Il y a bien place pour nous y asseoir toutes deux. »
Hélène profita de l'invitation de sa sœur. La bonne donna un quart d'heure avant de se lever, et la journée de la veille fut contée en détail à Marthe. Il fallut recommencer plus tard pour Cécile, mais personne ne s'en plaignit. Au second étage, l'apparition des deux Valerie ne causa pas un moindre étonnement. Dès leur réveil, ils ne prirent que le temps de passer leurs pantalons pour aller tambouriner sur la porte de la chambre où couchaient Pierre et Jean. Ceux-ci, brusquement réveillés, ne trouvèrent pas l'aubade de bon goût, et l'un d'eux, se précipitant en colère sur la porte, l'ouvrit si vivement que les deux frères faillirent tomber sur lui.
« Quoi, c'est vous, de si bon matin ? Qu'est-ce qui vous amène ? Trouville a-t-il disparu sous les eaux ? Vous êtes presque en costume de nuit. Avez-vous été surpris dans votre sommeil par un incendie ?»
Les jeunes de Maumer faisaient leurs questions avec une telle volubilité qu'il était impossible de leur répondre. Enfin, ayant épuisé leurs suppositions, ils se turent, et Maurice leur dit « Mes chers amis, nous avons ronflé près de vous. » Ainsi que l'avait pensé Hélène, ce fut lui qui fit le récit des circonstances ayant amené cet étonnant résultat. Bientôt, tous les enfants furent réunis dans une petite pièce située entre la cuisine et l'office, dans laquelle on leur servit leur déjeuner du matin. Là aussi se dressait la petite table quand il y avait de grands dîners. Une des portes donnait sur le jardin. Sitôt la dernière serviette remise dans son rond, toute la troupe se précipita dehors, courant dans les allées, dont le sable avait déjà absorbé la pluie tombée en si grande quantité après l'orage. Il avait été convenu, entre les parents, que l'hospitalité se prolongerait à Boisfleury jusque dans l'après-midi. Madame de Maumer, qui faisait ordinairement travailler ses enfants dans la matinée, leur donna congé. « À condition, ajouta M. Percier, de bien amuser les pauvres naufragés de la veille. »
« Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous obéir, mon oncle, soyez-en sûr, » lui répondit Jean.
Les garçons, postés sur un belvédère, commencèrent par guetter le retour de Nicolas, qui devait repasser pour savoir des nouvelles de la nuit, après avoir été chercher les deux ânes restés au Capricorne. Maurice ne tarda pas à l'apercevoir monté sur l'un d'eux, tenant la bride de l'autre passée à son bras. « À propos, lui dit-il, après quelques moments de conversation, « comment avez-vous fait pour reconduire la petite charrette à M. Dumont ?»«
Monsieur, répondit Nicolas, je suis venu l'acquérir, où ce que nous l'avions laissé hier au soir. Je m'y suis attelé, tout comme un marchand de quatre saisons, et pas sans peine, car la sueur me tombait à grosses gouttes, j'ai ramené à son maître. Le bonhomme était debout, déjeunant sur le pouce avec un morceau de pain bis et une poire véreuse.
« Avez-vous vu Jacques, le petit garçon ?» demanda Léon.
« Pour cela, oui, que je l'ai vu, pleurant comme une fontaine, mais pas devant son papa. » Je lui ai demandé ce qu'il avait, et tout en sanglotant, il m'a parlé d'un lézard qu'il ne pouvait plus retrouver. Il paraît que ce particulier possédait une maison que l'orage a démolie. Ah, le petit en a bien du chagrin. »
Tandis que Nicolas parlait, les ânes essayaient d'attraper de petites branches, ce qui rendait la position du cavalier fort peu commode. Il dit donc. « Pardon, excuse, messieurs, mais je crois que je ferais bien d'aller faire mon service. »
Maurice.
« Oui, partez, et dites que nous nous portons à merveille en souhaitant que tout le monde soit en aussi bonne santé à la villa. »«
Merci, monsieur, » reprit le brave domestique, qui ne manquait jamais de remercier pour les politesses faites à ses maîtres. Puis, piquant sa monture de la baguette qu'il tenait à la main, il partit si rapidement qu'il lui fallait se tenir à la renverse pour ne pas être lancé en avant des ânes. Ces animaux jouent un tel rôle dans le bonheur des enfants à la campagne qu'il faut en parler sans cesse. C'était le Martin de Boisfleury qui devait avoir l'honneur de conduire à Trouville les 8 petits amis qui avaient passé une si joyeuse matinée ensemble. Paré d'un joli harnais, attelé à une petite charrette anglaise fort élégante, ayant le poil soigneusement lustré, maître Aliboron avait le droit d'être fier. Aussi portait-il haut la tête, tandis que le vieux serviteur qui traînait l'espèce de carcasse dans laquelle M. Dumont allait faire ses courses, laissait pendre la sienne d'un air humble et résigné. Pour faire plaisir à Maurice, ses amis lui remirent le fouet ainsi que les rênes, et d'un gentil petit trot, l'équipage de la jeunesse suivit la Victoria, où se trouvait Madame de Maumère avec sa sœur, Mademoiselle Élisabeth Percier. Comme on arrivait à la Villa des Roses, Marcel et Lily sortaient de la grille, se rendant sur la plage avec Mariette. Tous les enfants sautèrent vite de voiture pour embrasser les petits. Marcel.
Enfin vous voilà, ce n'est pas dommage. Je m'ennuyais sans vous. Lily a tant pleuré hier avant le dîner en ne voyant revenir personne qu'elle ne pouvait plus manger sa soupe.
Maurice. Pauvre Lily, c'est peut-être parce qu'elle trouvait la soupe mauvaise.
Alice. Pas du tout, elle était au tapioca et c'est celle que j'aime le mieux, mais je croyais que le tonnerre vous avait tous tués.
Mariette. Je crois bien.
Impossible de lui retirer ça de l'idée. Elle ne voulait pas se coucher avant d'avoir entendu revenir la voiture, de sorte qu'elle s'est endormie sur mes genoux. Et pour ne pas la réveiller, car elle aurait recommencé à pleurer, je l'ai gardée comme cela jusqu'à ce que madame arrive. J'ai encore le bras tout douloureux ce matin d'avoir eu la tête de la petite si longtemps appuyée dessus.
Hélène, pendant que la bonne parlait, s'était assise sur un banc avec sa petite cousine tout auprès.
« Alors, mignonne, lui dit-elle, tu as pu dormir tranquille après avoir vu maman ?»
Alice. « Oui, elle m'a embrassée bien fort et a aidé Mariette à me déshabiller, mais j'aurais voulu te voir et Blanche aussi. »
Léon. « Eh bien, et nous, tu ne pensais donc pas à tes cousins ?»
Alice. « Si, un peu, mais pas tant qu'à mes cousines. J'ai dit à Marcel, quand nous avons fait notre prière, « Occupe-toi des garçons, cela te regarde. » Seulement, il n'a pensé à personne bien longtemps. À 8 heures, il dormait.
Marcel piquait. « Qu'est-ce qui t'a dit que je dormais ?»«
Je ne parlais pas, voilà tout. » Les hommes ne sont pas bavards comme les femmes. » Le petit garçon, comme pour mieux appuyer ce qu'il disait, d'un coup sec enfonça dans le sable la bêche qu'il tenait. L'instrument se brisa et la secousse fit tomber le bébé par terre. Tout le groupe des Valery et des Moumère se précipita pour le relever. Il pleurait, avait le menton écorché et de plus était en colère.
« C'est de votre faute, » disait-il en lançant des regards furibonds autour de lui. « C'est parce que vous aviez tous l'air de rire de moi que j'ai frappé si fort. »
Blanche. « Rire de toi, et pourquoi ?»
Marcel. « Parce que je n'avais pas pleurniché hier comme Alice l'a fait, en se dorlotant sur les genoux de ma bonne. Car enfin, elle est à moi, cette bonne. Et si j'avais voulu prendre sa place au lieu d'aller me coucher, j'aurais eu le droit de renvoyer Lily. N'est-ce pas, Mariette ?»
Mariette.
« Non, mon petit Marcel, je n'aurais pas renvoyé Lily. Je vous aurais pris chacun sur un genou. »
Maurice.
« Tenez, Mariette, emmenez-le donc pour le débarbouiller. Il a la figure pleine de terre et le sang sort de son écorchure. Quand il ne sera plus grognon, il viendra nous rejoindre. Avec cette petite scène, nous n'avons encore embrassé ni papa ni maman. »
Monsieur de Valery sortait justement de la maison, y laissant sa femme avec les dames de Boisfleury, pour venir voir comment il se faisait que ses enfants tardassent tant à venir dire bonjour. Ils s'en excusèrent, en comptant ce qui venait de se passer pendant que Marcel, à ses penauds, suivait Mariette. Alice prit la main d'Hélène et resta avec les grandes, jusqu'au moment où son petit cousin, regrettant sa colère, vint la chercher pour aller à la plage.
Marcel. « Embrasse-moi, maintenant j'ai le museau propre, et je ne suis plus de mauvaise humeur. Seulement, je n'ai plus de bêche, c'est bien ennuyeux. »
Alice.
« Tu prendras la mienne tout le temps, est-ce que tu n'en es pas content ? Tu te frappes le front et tapes du pied. »
Marcel. « J'ai oublié de remettre à Maurice la lettre qui est arrivée hier au soir, que Mariette a dit être de ta sœur. J'y vais tout de suite, et en 2 enjambées, je reviens. »
La lettre était effectivement de René de Berneuil pour son cousin. Elle avait écrit bien d'autres fois à ses cousines, et cependant, l'une après l'autre, Hélène et Blanche faisaient la moue, en voyant Maurice se mettre à l'écart pour décacheter l'enveloppe. Tout en causant avec Marthe, elle le voyait sourire en tournant les pages, puis tout à coup il s'écria
« C'est trop drôle !
En voilà une aventure !» Léon entendit l'exclamation au milieu d'un carré de fraises, où avec les jeunes de Maumère il se faisait bonne bouche. La curiosité l'emporta sur la gourmandise, les trois garçons arrivèrent près de Maurice, en même temps que les trois filles. Cécile était restée à Boisfleury. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Parle vite, ne nous fais pas languir, » dirent-ils à la fois. Maurice, « Il y a... Je vais plutôt lire la lettre. » Léon, « Alors, allons nous asseoir sous les arbres. » Un groupe de tilleuls formait ombrage au-dessus d'une douzaine de chaises rangées en cercle autour d'une table. Gravement, les enfants s'installèrent, et l'aîné des deux Valeries, en prenant un air d'importance, commença sa lecture. « Mon cher Maurice, j'ai vu un ours, un vrai, pas en carton, un ours grognant, montrant les dents, qui t'aurait fait peur, sois-en sûr. Ne ris pas, ne prends pas un air moqueur, car ce vilain animal aurait pu me tuer, et alors tu aurais bien pleuré un peu ta petite cousine, n'est-ce pas ? Gaston prétend que non, mais c'est pour me taquiner. Ah, que les frères sont méchants. Hélène et Blanche le savent bien. » Ici, Maurice fit un salut à ses sœurs, qui quittèrent leur chaise pour le lui rendre en riant. Puis Jean et Pierre tirèrent leur chapeau à Marthe, et celle-ci fit une révérence de leur côté. Ceci malgré de politesse, une fois échangé, Maurice continua. Écoute donc l'aventure. Hier, comme nous finissions de déjeuner à table d'hôte, on entendit sous les fenêtres une vilaine petite musique. On alla voir ce que c'était sur le balcon, et les curieux virent un ours tenu en laisse, dansant lourdement. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Mais un jeune Anglais eut l'idée saugrenue de descendre rapidement l'escalier, de prendre la corde des mains du conducteur ébahi, et d'arriver au milieu de la salle à manger, avec l'ours derrière lui. Il y restait encore presque tous ceux qui avaient déjeuné. En voulant fuir, ils se jetèrent les uns par-dessus les autres. Une des servantes, en courant comme une folle, laissa tomber la pile d'assiettes qu'elle tenait dans ses bras. La maîtresse de l'hôtel, pesant bien 200 livres, fut jetée à terre par son mari, pendant que tous deux se précipitaient pour appeler le conducteur de l'animal. Celui-ci grognait de la plus méchante façon. Tout le monde poussait des cris affreux. Maman dit que cela l'excitait encore davantage. Aussi donna-t-il une forte secousse qui le fit échapper des mains du jeune Anglais. Libre de ses mouvements, l'ours allongea le pas derrière les personnes qui avaient pu réussir à sortir de la pièce et les poursuivait dans le corridor. Tu comprends qu'avec une pareille peur, on ne s'occupa guère de reconnaître le numéro de sa chambre. Partout où il y eut une clé dans la serrure, on entra. Nous sommes tombés 7 ou 8, chez un vieux monsieur souffrant, de méchante humeur, ne comprenant rien à ce qui se passait, il s'est fâché contre nous. Enfin, le conducteur de l'ours, pour avoir sa bête, a été obligé d'organiser une véritable chasse à travers les chambres, dont les domestiques, en faisant le ménage, avaient laissé les portes ouvertes. Ce ne fut pas sans danger qu'on réussit à le prendre où ? Près de mon lit. Il s'était dressé debout le long du mur, avec l'air si menaçant que je tremble en y songeant. Tu peux le voir à mon écriture. Je ne te dis pas autre chose aujourd'hui, car ma lettre est, je crois, la plus longue que j'ai jamais écrite. Je voudrais bien savoir dessiner comme Léon pour illustrer mon papier de toute la promenade que je ne puis que raconter. C'était à la fois terrible et drôle. J'espère que nous ne tarderons pas à quitter les Pyrénées. J'en ai assez et désirerais beaucoup être près de vous à Trouville. Embrasse bien pour moi oncle, tante et tous les autres. Je t'embrasse toi aussi, de tout mon cœur. Ta cousine Renée. Étourdie ! J'oubliais de te dire que Gaston n'était pas avec nous. Maman lui avait permis d'aller déjeuner dans la famille d'un de nos amis. Que j'aurais voulu être là, s'écria Pierre. À la bonne heure. C'est ce qui s'appelle une aventure. Votre cousin a dû être bien vexé de ne pas y avoir assisté. Pour nous, tous les ans, c'est la même chose. On va à Boisfleury, et l'animal le plus féroce que l'on puisse rencontrer dans le voisinage, c'est un homard qui vous pince les mollets si en se baignant on approche des rochers. Marthe, je suis sûre, Pierre, qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas des vacances aussi bonnes que les nôtres. Lorsque j'en parle à Paris, aux petites filles du cours, presque toutes me disent « Que vous êtes heureuses, combien vous devez vous amuser !» Jean, Marthe a raison, seulement le petit extraordinaire d'un voyage me ferait aussi grand plaisir. Léon, ce qui prouve qu'on ne peut pas tout avoir, comme dit mon professeur.
Maurice, tu devrais ajouter qu'il te sert cette phrase en te donnant une punition lorsque tu as dessiné quelques drôleries au lieu de faire tes devoirs. On ne peut pas s'amuser en classe et avoir de bonnes notes, tandis qu'on pourrait très bien passer une année ses vacances d'une façon et l'année suivante d'une autre. Moi, je ne suis pas encore lassé de venir à Trouville, et si l'été prochain on me demande mon avis, je serai pour que nos parents y reviennent encore, surtout si nos amis sont à Boisfleury. Pierre, se levant, vient lui serrer la main. Voilà une phrase qui vaut mille remerciements. Léon, tirant son mouchoir, je pleure d'attendrissement.
Miss Lagie vint interrompre la conversation en avertissant que Madame de Maumère allait partir. Vite, les garçons allèrent s'occuper d'amener la voiture à Anne devant le perron, où la Victoria était déjà, et les petits amis se séparèrent en se donnant un prochain rendez-vous.